Europe 1, il est 7h.
Désormais, toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge.
Le vaccin AstraZeneca nous permettra-t-il de sortir plus vite des restrictions ? La vaccination va en tout cas s'accélérer alors que l'Europe précise de plus en plus son projet de passe sanitaire. Nicolas Sarkozy fait appel de sa condamnation pour corruption. 1 an de prison ferme pour un ex-président, c'est inédit. La défense dénonce des magistrats aux ordres. Sur quelle base ? Ce sera le coup de fil du journal de 7h. Et puis, est-ce bon signe pour les producteurs ? La bataille sur les prix agricoles se poursuit. Négociations prolongées entre industriels et grande distribution. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Faut-il faire plus pour la relance ? Faut-il dépenser plus et plus vite ? L'enveloppe des 100 milliards est-elle suffisante ? Le débat est ouvert.
Avant le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Depuis combien de temps vous n'avez pas fait une grasse matinée ?
Oh là,
ça fait
même
des
pas.
Lustres.
Oui, des lustres.
Ben voilà. D'où vient cette expression ?
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h01.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'espoir d'un coup d'accélérateur ce matin. Emmanuel Macron nous demandait hier de tenir encore 4 à 6 semaines avant le bout du tunnel, grâce, espère-t-il, à la vaccination. Eh bien, son gouvernement dispose aujourd'hui d'un levier de plus. Le vaccin AstraZeneca ne sera plus réservé aux moins de 65 ans. Les données manquaient jusqu'ici, mais une étude écossaise confirme son efficacité chez les plus âgés. Il va donc pouvoir être administré au-delà de cet âge, comme l'a annoncé hier soir sur France 2, Olivier.
La Haute Autorité de Santé considère désormais que tous les vaccins dont nous disposons en France, le AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna, ont une efficacité qualifiée de remarquable pour préserver les gens et les protéger des risques de formes graves du Covid. Ainsi, je peux acter que désormais, toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités, comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge, donc les 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours en pharmacie. Et pour les personnes qui ont 75 ans et plus, c'est toujours le Pfizer ou le Moderna en centre de vaccination.
Olivier Véran, hier soir aux 20h de France 2, qui confirme aussi qu'une seule dose de vaccin sera nécessaire pour ceux qui ont déjà contracté le Covid.
Et justement, avoir guéri de la maladie ou avoir été vacciné pourra bien nous permettre de voyager plus librement cet été en Europe. C'est en tout cas le sens du passeport sanitaire que prépare la Commission européenne. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Ce ne sera pas uniquement un passeport vaccinal, hein, donc, mais un passe vert comme le feu vert, un passe que réclamaient la Grèce, l'Espagne ou encore l'Autriche.
Oui, après des semaines d'hésitation, le passeport sanitaire européen semble enfin sur les rails. Bruxelles présentera son projet de loi dans 2 semaines. Mais attention, ce document ne sera pas juste un certificat vaccinal, selon le commissaire européen Margaretti Skinas.
Notre priorité absolue, c'est d'y mettre un ensemble d'informations. Pas seulement si quelqu'un est vacciné ou pas, mais aussi pour éviter les discriminations, une déclaration de guérison ou un résultat de test. Et l'idée, c'est que les décisions finales soient prises en amont de la saison touristique cet été.
D'ici là, il va falloir réaliser un travail technique. Le pass pourrait prendre la forme d'un QR code. Il doit être lisible à travers toute l'Europe. Il faut s'assurer que les données médicales sont bien protégées. Des incertitudes scientifiques aussi doivent être clarifiées. Exemple, est-ce que la vaccination évite d'être contagieux ? Enfin, les États auront le dernier mot sur l'usage qu'ils veulent réserver à cet outil. Il doit permettre de franchir les frontières. Mais en France, Emmanuel Macron imagine aussi qu'il serve de sésame pour les restaurants ou les spectacles.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et notez qu'aux États-Unis, Donald Trump a été vacciné en toute discrétion au mois de janvier avec son épouse Melania. C'est ce que révèle pour la toute première fois aujourd'hui leur entourage.
7h04 sur Europe 1. Nicolas Sarkozy fait donc appel de sa condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption.
C'est, vous le savez, une première pour un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dont les écoutes ont montré qu'il se préparait avec son avocat Thierry Herzog à appuyer la candidature d'un haut magistrat pour un poste à Monaco en échange d'informations sur l'un de ses dossiers judiciaire. Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour.
Depuis hier, la droite fait bloc, comme le titre Le Figaro ou presque toutes les chaînes d'infos ce matin. En réalité, vous nous dites, Michael, qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
Et oui, parce que pour beaucoup à droite, en fait, la page est tournée depuis longtemps. Hein. C'est ce que de nombreux responsables soulignent hors micro. Alors bien sûr, il y a les inconditionnels nostalgiques du quinquennat Sarkozy qui le voient toujours comme un recours. Mais d'autres rappellent qu'il a été battu par les électeurs de la droite dans la primaire de 2016 et qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est un homme d'affaires aux activités internationales peu compatible avec un retour en politique. De plus, l'agenda judiciaire de Nicolas Sarkozy reste rempli. Dans 15 jours, il doit comparaître pour le dossier des comptes de campagne. C'est l'affaire Big Malion. Alors depuis hier, le diable est dans les détails. Xavier Bertrand a pesé chaque mot de son tweet sobre. Respect et amitié au président Sarkozy. Toutes les voies de recours doivent être utilisées. C'est pratiquement mot pour mot les termes de Valérie Pécresse qui souhaite à Nicolas Sarkozy aussi de pouvoir faire entendre sa vérité en appel. Bertrand et Pécresse, candidats pour 2022 et pour incarner l'après Sarkozy.
Merci beaucoup Michael Darmon, chef du service politique d'Europe 1.
Maître Paul-Albert Ivens, bonjour.
Oui, bonjour.
En direct avec nous ce matin, ancien bâtonnier de Paris, l'un des avocats de Thierry Herzog dans cette affaire condamné à la même peine que Nicolas Sarkozy a sorti de 5 ans d'interdiction d'exercer. On parle d'un jugement historique. Vous-même, vous avez été surpris ?
Oui, parce que l'audience ne laissait absolument pas prévoir cette décision. Vos confrères qui ont assisté à l'audience dans leurs différents comptes rendus donnaient bien l'impression réelle de ce que ce dossier ne tenait pas. Et on avait véritablement l'impression que le tribunal avait été convaincu par nos explications et les preuves qu'on a amenées à l'audience.
Alors, ce que les juges ont validé, ce que le tribunal a validé, c'est aussi le fait que l'on puisse écouter une conversation entre un avocat et son client, écoute que vous considérez comme illégale.
Oui, parce que c'est un avocat qui parle à son client, il parle de différents dossiers d'ailleurs, mais essentiellement, bien entendu, de l'affaire Bettencourt. Et ce que votre commentaire tout à l'heure a oublié de dire, c'est que M. Sarkozy a perdu dans l'affaire Bettencourt, qu'il n'y a pas eu de poste à Monaco, qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est une histoire que je m'étais permis de qualifier de corne-cul au début, de discussion entre amis. Et on a pris tout cela en écoutant un avocat et son client, en extrayant des bouts de phrases pour en faire une incrimination terrible d'ailleurs, de corruption, d'abus de trafic d'influence, qui sont quand même des mots très forts, alors que véritablement, c'est pas ça.
Le tribunal estime que le secret professionnel constitue, je les cite, une garantie primordiale du procès équitable, mais que ce secret n'est pas pour autant intangible, et que là, la retranscription des conversations incriminées visait un but légitime.
Oui, vous savez, le secret, malheureusement, le secret professionnel des avocats est constamment attaqué depuis des années, essentiellement d'ailleurs par la jurisprudence, pas par la loi, qui s'efforce toujours d'essayer de le protéger. En fait, aujourd'hui, le seul secret professionnel qui est garanti par la loi, c'est celui des journalistes. Et on ne peut que le regretter, parce que c'est quand même essentiel que les avocats et leurs clients puissent parler en confidentialité.
Maître, avez-vous une idée de quand pourra se tenir ce procès en appel ?
Écoutez, si l'on voit ce qui se passe habituellement, je pense que ça sera d'ici environ un an.
D'ici un an. Merci Maître Paul-Albert Ivens, avocat de Thierry Herzog dans ce dossier. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin dans le journal de 7h d'Europe 1.
Toujours au volet judiciaire. En bref, l'ancien ministre Jean-Michel Baylet, entendu dans une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il est visé par une plainte pour des faits qui remontent à une quarantaine d'années. Il conteste formellement ces accusations.
L'actualité économique est une étape clé dans la réforme de l'assurance chômage ce matin.
Après deux reports, la ministre du Travail présente ses pistes aux partenaires sociaux. Les jeunes ne devraient pas être concernés par le durcissement des conditions pour avoir droit aux allocations le temps que la situation économique s'améliore. Et la baisse des indemnisations avec le nouveau calcul sera limitée par un montant plancher. Les syndicats restent vent debout contre ce projet de décret.
Tandis que les négociations sur les prix agricoles, elles, jouent les prolongations.
Oui, la grande distribution et les fournisseurs ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Ils avaient jusqu'à hier, mais le bras de fer va se poursuivre potentiellement plusieurs mois devant notamment le médiateur de ces prix agricoles. Deux anciens membres des forces spéciales américaines bientôt extradés vers le Japon. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Carlos Ghosn dans sa rocambolesque fuite vers le Liban. C'était en décembre 2019.
Et puis c'était il y a 30 ans.
Tu es un fumeur peu avant.
L'homme à la tête de chou, Serge Gainsbourg, nous quittait. Aujourd'hui, sa maison 5 bis rue de Verneuil à Paris va devenir un musée. C'est ce que souhaitait de longue date sa fille Charlotte. La devanture du 5 bis est déjà un lieu de recueillement pour les fans. Mais il paraît qu'à l'intérieur, Mathieu, rien n'a bougé. Alors ils sont nombreux, ceux qui attendent que le portail s'ouvre enfin, comme est allé le constater Angèle Châtelier.
J'attends avec impatience. Dès que le musée sera ouvert, je vais venir.
Isabelle, une fan de Gainsbourg, regarde larme à l'œil la façade. Il y a toujours les tags, les hommages, mais ce qui dénote, c'est un panneau, un permis de construire affiché sur la droite, délivré mi-décembre. Les travaux ont commencé pour accueillir du public.
Le 5 bis n'appartiendra plus aux fans, mais appartiendra à tout le monde.
Patrick, lui, vient tous les ans se recueillir devant la maison de son idole, qu'il va avoir du mal à partager.
Il y a un côté mythe qui s'en va, il y a un côté fantasme.
Mais qui profitera, il le sait, aux commerçants du quartier, comme les bars, aux alentours où Serge Gainsbourg avait ses habitudes.
Non, je sais qu'il allait au coin là-bas, pour prendre des sandwichs. Je sais qu'il venait ici boire un verre pour se ressourcer, pour méditer aussi.
Et pour faire ses courses, il allait dans une boucherie du quartier à quelques mètres de chez lui.
Bonjour monsieur.
Excusez-nous. On voit un tableau là de Serge, alors oui. Ça nous a interpellés.
Valérie, la co-gérante, se souvient de lui.
Il venait très souvent, il était très sympa. Voilà, décontracté, pas la grosse tête.
J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous que la rue de Verneuil devienne un musée.
Ah oui, ça, on en est ravis. Pour les commerçants, ce sera agréable aussi d'avoir une rue qui s'anime un peu plus.
Le 5 bis rue de Verneuil devrait être accessible en petits groupes. La maison de 130 mètres carrés de Serge Gainsbourg est bas de plafond et exigu.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ?
Voilà, faire la queue pour rentrer dans un lieu bas de plafond et exigu, on va devoir avoir le pass sanitaire pour aller chez Gainsbourg, c'est quand même assez ironique.
Bien vu, cela dit, je pensais à l'annonce immobilière, moi. Bas de plafond, exigu, mais ayant été habité par Serge Gainsbourg.
C'est efficace.
C'est pas mal quand même, un peu de musique ce matin.
Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde
et Théo Manval, c'était le journal de 7h. Merci Théo, il est 7h11. Allez.